Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir tous en ce jour saint. Un testament est un document que les gens remplissent pour transmettre leurs souhaits à leur mort ou après leur mort. L'Église a un livret sur le sujet. Nous n'en parlons pas très souvent, mais il fait partie de notre collection de documents et c'est quelque chose de très important à connaître. Mais j'ai fait quelques recherches en préparant ce message et je suis tombé sur ce qui s'est avéré être des demandes plutôt inhabituelles dans les testaments que les gens avaient rédigés avant de mourir. Je vais vous en faire part. Vous connaissez certaines de ces personnes, d'autres non. Mais la première ici est un magnat de l'hôtellerie, Leona Elmslie. Vous avez probablement entendu parler d'elle. Elle est décédée en 2007 et a écrit dans son testament qu'elle voulait que 12 millions de dollars soient laissés à son chien. Le chien s'appelait Trouble. Elle a appelé son chien Trouble. En fin de compte, Trouble n'a finalement reçu que 2 millions de dollars, car ses petits-enfants se sont battus avec véhémence pour obtenir tout cet argent et ses enfants avaient été exclus de son testament. Mais ils se sont battus avec véhémence devant les tribunaux pour que ce chien ne reçoive pas 12 millions. Mais vous savez qu'un chien qui finit avec 2 millions, ce n'est pas si mal. Je suis donc sûr que Trouble s'est bien amusé avec. En voici une autre, celle du millionnaire canadien Charles Milna. Il a promis de léguer toute sa fortune à la femme qui aurait le plus d'enfants dans les 10 ans suivant sa mort. Ainsi, celle qui aurait le plus d'enfants, quelle qu'elle soit, obtiendrait toute sa fortune. Il s'avère que 4 femmes ont obtenu le même nombre d'enfants, 9 chacune, en 10 ans. Elles ont donc dû se partager l'argent, qui, j'en suis sûr, a servi à payer tous ces bébés. Ça a aidé. Rire, le prochain est un millionnaire excentrique, Wellington Burr, qui a stipulé que sa vaste fortune ne serait transmise que 21 ans après la mort de son dernier petit enfant survivant. Donc, personne n'aurait reçu d'argent avant 21 ans après la mort de son dernier petit enfant. Inutile de dire que cette clause testamentaire a suscité beaucoup d'amertume dans cette famille. Le Londonien Henry Wood a expressément interdit à ses fils de se laisser pousser la moustache. Ainsi, s'il se laissait pousser la moustache, il n'avait pas droit à sa fortune. Donc, je suppose que je n'aurais pas eu droit à la fortune. Pour rester dans le domaine des cheveux, Napoléon Bonaparte, à sa mort, a stipulé que sa tête soit rasée et que ses cheveux soient répartis entre ses amis. Non merci. Non merci. Dans son testament, le comédien Jack Benny a demandé qu'une seule rose soit livrée chaque jour à sa femme jusqu'à sa mort. C'est une belle rose, et c'est probablement la plus docile de toutes. Enfin, un ténor du Vermont nommé Jean Bowman a demandé que son manoir soit prêt pour lui et sa famille après leur mort, et qu'il le reste une fois qu'il serait ressuscité. Il devait donc entretenir le manoir et servir un repas de 4 plats tous les soirs au cas où il reviendrait et aurait faim. Ils ont fini par manquer d'argent, et c'était fini. Ce sont donc des testaments assez inhabituels, et les gens n'écrivent probablement pas des choses aussi folles. Les gens écrivent des choses plus normales. Mais si vous y réfléchissez, cela m'a fait réfléchir, pourquoi appelle-t-on cela un testament? Vous savez, c'est le dernier testament. Pourquoi l'appeler ainsi? C'est un peu drôle de l'appeler ainsi. Mais une fois que j'ai réalisé et que j'y ai réfléchi, vous savez quoi? Un testament a en fait du sens. Le mot testament signifie simplement tout ce que vous désirez ou avez l'intention de faire. Donc, si vous rédigez un testament pour quelqu'un, c'est ce que vous avez l'intention de faire ou ce que vous désirez qu'il se passe une fois que vous serez mort. Il s'avère que nous parlons tout le temps de cette idée de testament. Ce n'est pas vraiment un sujet étranger pour nous une fois que nous y réfléchissons. Vous pouvez être prêt à faire quelque chose ou ne pas être prêt à faire quelque chose. Vous pourriez être contraint de faire quelque chose contre votre volonté. Cela signifie donc que vous êtes forcé de faire quelque chose que vous ne vouliez peut-être pas faire. Veux-tu m'épouser? Oui. Quelque chose que tout futur mari aimerait entendre une fois qu'il a posé la question. Donc, cette idée de volonté est en fait très familière. Lorsque nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, nous demandons à Dieu que son désir se réalise. Cette idée de la volonté de Dieu m'a beaucoup occupé ces derniers temps, surtout en cette période de l'année. Peut-être pouvez-vous tous en dire autant. Vous vous demandez quelle est la volonté de Dieu? Nous y pensons souvent, mais surtout en cette période de l'année, j'y ai beaucoup réfléchi. Et, mes frères, je veux que chacun d'entre nous, au cours des 7 prochains jours, réfléchisse beaucoup plus à la volonté de Dieu. Je veux que nous nous concentrions vraiment sur la volonté de Dieu, non seulement pendant ces 7 jours, mais surtout pour les 7 prochains jours et au-delà. Quelle est la volonté de Dieu? Alors, en ce premier jour des pains sans levain, explorons ce que Dieu désire de nous. Quelle est sa volonté pour nous? Et comment pouvons-nous nous y conformer? Allez à Éphésiens 5, chapitre 5. On entend tellement parler de messages post-déjeuner et de tout le monde qui reste alerte et éveillé, alors j'espère qu'un peu d'humour a au moins fait circuler un peu le sang. Éphésiens chapitre 5. Nous allons continuer ici. D'accord. Éphésiens chapitre 5. Lisons l'un des principaux versets qui a motivé ce message et la raison pour laquelle je voulais vraiment partager ce message avec vous. Éphésiens 5. Nous lirons le chapitre ou le verset 17. Éphésiens 5. 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. D'accord. Ne soyez pas inconsidérés, mais sachez reconnaître la volonté du Seigneur. Les sages comprennent la volonté de Dieu. Les inconsidérés ne comprennent pas la volonté de Dieu. Frères et sœurs, je veux être sage. Vous voulez tous être sages. Les sages comprennent la volonté de Dieu. Les gens demandent tout le temps, quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire? Ou quelle est la volonté de Dieu dans cette situation? Ou que dois-je faire? Ou que voudrait Dieu que je fasse? C'est une question très populaire. C'est une question que nous nous posons souvent, surtout lorsque nous devons prendre une décision. Il y a quelque chose devant nous et nous ne savons pas trop quoi faire. Quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire? Eh bien, ce verset nous dit qu'il nous est possible de comprendre ce que c'est. Il nous suffit d'être sages pour y parvenir. Matthieu 6. Ouvrez votre Bible à Matthieu 6. Nous allons lire la prière à laquelle j'ai fait référence dans mon introduction. Matthieu 6, la prière modèle, que nous prions tous les jours. Matthieu 6 verset 10, en coupant dans la prière, en répétant ce qui a été dit plus tôt. Que ton règne vienne, que ta volonté, donc c'est Dieu, la volonté de Dieu, soit faite, sur la terre comme au ciel. Ce mot sera est un mot grec qui sonne drôle. C'est telema, et cela signifie une détermination, un choix ou une inclination. Et comme indiqué, il est traduit par désir, plaisir ou volonté. Notre prière quotidienne est donc que la volonté de Dieu soit faite ici sur terre, tout comme sa volonté est faite au ciel. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Tout d'abord, cela implique au ciel, la volonté de Dieu est complètement faite. Donc, quiconque ou quoi que ce soit en dehors de la volonté de Dieu ne peut pas être au ciel. Cela explique vraiment pourquoi Lucifer a dû être chassé. Les anges déchus ne pouvaient pas y être. Nous voyons donc qu'il existe un endroit, le paradis, où la volonté de Dieu est toujours faite. Tout aussi important, cependant, est le fait que sur terre, la volonté de Dieu n'est pas toujours faite. D'où la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes frères, il est très important de comprendre cela. Certaines personnes se demandent, elles demanderont peut-être souvent à un pasteur, nous pourrions recevoir cette question, il pourrait s'agir d'une correspondance personnelle qui arrive, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Pourquoi Dieu permet-il aux gens de mourir? Pourquoi Dieu permet-il que le mal ait lieu dans le monde? C'est parce que tout sur terre n'est pas fait selon la volonté de Dieu. C'est pour cela. Ce n'est pas comme au paradis. C'est différent ici sur terre, forniquer, puis tuer le bébé après n'est pas la volonté de Dieu. Voler chez Walgreens en CVS puis le revendre sur MZN n'est pas la volonté de Dieu. Les politiciens et les dirigeants qui mentent au peuple ne sont pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Les enfants gâtés qui font des caprices à l'épicerie, les adolescents rebelles. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. L'athéisme, la confusion religieuse, rien de tout cela n'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous les voyons ici sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je pourrais continuer avec bien d'autres choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. 2 Timothée 2:26 dit que le diable a une volonté, et franchement, ces choses que je viens de lire, que je viens de vous dire, que je viens de vous donner, sont le reflet de la volonté du diable. Mais nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu. Or, il y a beaucoup d'idées fausses sur la volonté de Dieu. Beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas sur la volonté de Dieu. L'une des idées fausses est que, pour comprendre la volonté de Dieu, il faut décoder ce message secret et cette compréhension mystérieuse pour comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Il faut regarder vers les cieux, chercher un signe. Une autre idée fausse est que la volonté de Dieu concerne les sentiments et les émotions. Et encore une fois, les nuages qui se détachent et les anges qui chantent et oh, c'est la volonté de Dieu. Une autre idée fausse est que seules les actions, les pensées ou les paroles ouvertement religieuses, ainsi dit le Seigneur, sont celles qui constituent la volonté de Dieu. Tout le reste est en dehors de la volonté de Dieu. Le discours religieux est une autre façon de le dire. Les gens peuvent croire que vous êtes soit pleinement dans la volonté de Dieu, soit complètement en dehors, que c'est noir ou blanc. Soit vous êtes pleinement dans la volonté de Dieu, soit vous êtes complètement en dehors de la volonté de Dieu. Nous pouvons croire, les gens peuvent croire que la prière sans réponse, la prière retardée est en quelque sorte un signe que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Nous sommes tous passés par là. Nous pouvons croire à tort qu'une vie alignée sur la volonté de Dieu est sans problème. Chevaucher les nuages, facile, facile à vivre, c'est clairement la volonté de Dieu. Mes frères, ce sont toutes des idées fausses et des choses que nous ne comprenons peut-être pas complètement, ce sont des pièges dans lesquels nous pouvons même tomber, sans parler de ceux qui sont dans le monde. Ouvrez votre Bible à Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Nous n'avons pas à nous battre pour savoir ce qu'est la volonté de Dieu et ce qu'elle signifie. Nous n'avons pas à nous battre avec cela. Romains chapitre 12. Lisez le verset 2. Romains chapitre 12 verset 2. Et ne vous conformez pas au monde présent, mais au contraire, frères, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous y reviendrons. Transformez et renouvelez dans votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ainsi, la volonté de Dieu est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Bonne signifie bénéfique. Acceptable signifie pleinement agréable et bienvenue. Et enfin, parfait signifie complet. Ainsi, la volonté de Dieu est bénéfique, elle est pleinement agréable et elle est complète. Ce n'est qu'un verset que nous lisons sur la volonté de Dieu. Et Paul dit ici que pour comprendre la volonté de Dieu et pour que nous puissions pleinement saisir ou comprendre la volonté de Dieu, nos esprits doivent être renouvelés. Elles doivent être transformées, si transformées, passer d'un état à un autre état afin de comprendre même ce que je viens de lire. Mais si nos esprits sont différents, s'ils sont changés, s'ils sont transformés, s'ils sont renouvelés, alors nous avons toutes les chances de pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Dieu nous dit beaucoup de choses sur sa volonté. Allons simplement à plusieurs endroits. Nous allons juste suivre l'ordre. D'abord, ouvrez l'Apocalypse au chapitre 4. Dieu parle beaucoup de sa volonté. Et vous pouvez tout dire. La parole de Dieu est sa volonté, mais je veux dire spécifiquement sa volonté, là où il n'y a aucun doute. Apocalypse chapitre 4, nous allons juste lire plusieurs versets ici. Apocalypse 4 verset 11. Apocalypse 4 11. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et pour ton plaisir elles sont et ont été créées. Aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre n'a pu ouvrir le livre et y regarder. Donc, quand nous regardons, c'était le verset 3. Pardonnez-moi. Donc, quand nous le regardons, nous voyons que le plaisir de Dieu, ce mot plaisir, signifie sa volonté. C'est juste une autre traduction de volonté. Donc, le plaisir de Dieu dans Apocalypse 4:11. Ce mot plaisir signifie volonté. Donc, voyez-le simplement comme et pour votre volonté ils sont et ont été créés. Donc, toutes choses ont été créées pour la volonté de Dieu. Donc, c'est le verset parapluie. Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, verset 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, se référant au Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu est que toute l'humanité ait la vie éternelle. C'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu veut. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 5. Nous commencerons au verset 4, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Ayant prédestiné nous à l'adoption des enfants par Jésus-Christ à lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Ainsi, Dieu veut que nous soyons ses enfants. Ces versets sont très clairs. Nous pouvons facilement voir quelle est la volonté de Dieu. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Comment Dieu veut-il que nous agissions en tant que ses enfants? Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Première épître aux Thessaloniciens, 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est là, rendre grâce, la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Dieu veut des enfants reconnaissants. Il ne veut pas d'enfants ingrats, qui ne savent pas apprécier ce qu'ils ont, qui se croient tout permis. Il veut que nous soyons reconnaissants. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1 verset 4, qui, se référant au Christ, s'est livré lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer de ce monde mauvais, selon la volonté de Dieu et de notre Père. Dieu veut nous protéger d'un monde mauvais. Lorsque nous sommes dehors et que nous voyons le monde s'effondrer autour de nous, qu'il s'agisse de dangers physiques, financiers, de dangers divers et de choses négatives auxquelles nous sommes confrontés, la volonté ou le désir de Dieu est de nous en protéger, de protéger ses enfants de cela. Aucun parent ne veut voir son enfant souffrir ou être exposé à un quelconque danger. C'est la volonté de Dieu. Il veut nous délivrer du mal. Plusieurs autres. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 verset 31. Or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'écoute. Donc Dieu écoute ou entend ceux qui l'adorent et font sa volonté. Si vous voulez être entendu par Dieu, si vous voulez que Dieu entende votre prière, faites sa volonté, adorez-le. 1er Épître de Pierre, chapitre 4. 1er Épître de Pierre, chapitre 4, verset 2. Le verset 1 parle de ne pas vivre dans la chair. Le verset 2, afin qu'ils ne vivent plus pour le reste de ses jours dans la chair, selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Dieu veut que nous abandonnions un mode de vie selon la chair. Il veut que nous vivions plutôt selon sa volonté. Il veut que nous changions. Restons ici dans la première épître de Pierre. Allons au chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 15. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 15. Car telle est la volonté de Dieu, c'est que, par de bonnes œuvres, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes insensés. Dieu veut que nous fassions ce qu'il faut, que nous fassions ce qu'il faut. C'est bénéfique pour nous. Cela nous donne une bonne image. Cela lui donne une bonne image en fin de compte. Restons ici dans la première épître de Pierre, allons au chapitre 3, verset 17. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 17. Car il vaut mieux souffrir pour avoir fait le bien que pour avoir fait le mal, si telle est la volonté de Dieu. Oh oh! Parfois, Dieu aussi, parfois sa volonté est aussi que nous souffrions lorsque nous faisons le bien. Celui-ci ne coule pas aussi bien que certains des autres. Mais nous voyons clairement que Dieu dit que de temps en temps, sa volonté est que nous souffrions en faisant le bien. Encore quelques-uns. Psaume 40. Allons au psaume 40. Psaume 40, verset 8. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu. Oui, ta loi est écrite dans mon cœur. La volonté de Dieu est sa loi. On lit ici qu'elle est écrite dans un cœur, et que l'homme prend plaisir à la faire, mais la volonté de Dieu est sa loi. 1er Épître aux Corinthiens, 1 verset 1. Beaucoup d'épîtres sont structurées comme celles que je vais lire. 1er Épître aux Corinthiens, verset 1. Paul a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Nous avons cet apôtre, cet homme, ce ministre, cet ancien, ce dirigeant de l'Église de Dieu qui, selon la volonté de Dieu, a été placé à sa position au-dessus des frères, et son travail consistait à expliquer et à exposer ce que nous lisons dans le psaume 40, qui est la loi de Dieu. Mes frères, au cours de ces dernières minutes, nous avons fait une rapide étude biblique sur la volonté de Dieu. Il n'y a aucune excuse pour que nous ne connaissions pas la volonté de Dieu. Elle est très claire. Nous venons de parcourir, attendez, quoi? 10, 11 versets. Il y en a tellement d'autres. Nous allons parler de bien d'autres choses aujourd'hui, mais comprenez que ce livre, cette Bible, est à votre disposition et ouvert à vous. Si vous êtes sage, nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Y a-t-il quelque chose que j'ai lu qui n'avait pas de sens? J'aurais pu prendre chacun d'entre eux et les expliquer en allant dans de nombreuses directions différentes. Chacun d'entre eux pourrait probablement être un message en soi, mais chacun de nous a la merveilleuse, incroyable et extraordinaire possibilité de connaître la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas la gâcher. Nous ne voulons pas la tenir pour acquise. Revenons à ces idées fausses. La volonté de Dieu n'est pas un secret codé ou quelque chose que nous ne pouvons pas connaître. Les parents ne parlent pas traditionnellement à leurs enfants de cette façon. Ils veulent qu'ils comprennent. Ils ne comprennent peut-être pas au début. Ils devront peut-être finir par comprendre. Mais la volonté de Dieu n'est pas un secret codé ou une planète mystérieuse. Suivez les principes bibliques fondamentaux, des choses qui sont écrites pour que nous les lisions, que nous méditions dessus, que nous étudions. La volonté de Dieu n'est pas une question de sentiments ou d'impressions, de signes du ciel. C'est une idée fausse qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Ce ne sont pas seulement les actions ouvertement religieuses ou qui semblent religieuses qui constituent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut s'expliquer de cette façon. Dans certains cas, ce sont des choses qui sont clairement tirées de la Bible, mais ce sont des principes de vie, faire ce qui est juste, traiter les autres comme on veut être traité. Ces principes sont conformes à la Bible, mais ce n'est pas nécessairement un ainsi dit. Ce n'est pas ce qui résume complètement et totalement la volonté de Dieu. Il y a des domaines dans nos vies, frères, où nous serons forts et suivrons pleinement la volonté de Dieu et d'autres domaines où nous aurons du mal à suivre la volonté de Dieu. Cela réfute donc l'idée fausse selon laquelle nous sommes soit pleinement dans la volonté de Dieu, soit complètement en dehors de la volonté de Dieu. Aucun d'entre nous n'est jamais dans cette position. Il y a des choses que nous faisons très bien, merci, et d'autres domaines où c'est plutôt, « Oh, mon Dieu, quand est la Pâque ?» Je suis dans le pétrin. Une prière sans réponse ou retardée ne signifie pas automatiquement que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas toujours si clair. Le moment choisi par Dieu est le moment choisi par Dieu. Nous ne sommes peut-être pas prêts pour ce pourquoi nous prions ou ce que nous voulons ou désirons. Ce n'est peut-être pas encore le moment, ou cela n'arrivera peut-être jamais. Bien sûr, une vie qui est conforme à la volonté de Dieu n'est pas sans problème. D'une certaine manière, elle invite à plus de problèmes. Elle invite à plus de difficultés. Elle invite à plus de défis. Pourquoi? Tout d'abord, nous nageons à contre-courant. Nous allons à l'encontre de la société. Nous décidons de ne pas prendre la voie facile, la route facile. Cela, en soi, va inviter des problèmes, sans parler des défis qui vont naturellement avec. Mes frères, c'est la volonté de Dieu, et cela n'a évidemment pas tout couvert, mais ces choses font partie de la volonté de Dieu, de ce que cela signifie. Nous avons vu, évidemment, que Dieu a une volonté, que le diable a une volonté. Nous l'avons vu, mais ils ne sont pas les seuls à avoir une volonté. Ouvrez votre Bible à Jean, chapitre 1. Ouvrez votre Bible à Jean, chapitre 1. Dieu, le diable, ces êtres divins célestes ne sont pas les seuls à avoir une volonté. Jean chapitre 1. Le contexte est différent ici, mais il est révélateur. Jean chapitre 1, nous lirons le verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Il est question du Christ comme étant la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'homme a clairement une volonté. Mes frères, nous avons aussi une volonté. Pas seulement Dieu. Pas seulement le diable. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a une volonté, il nous a créés et nous a donné une volonté. Nous sommes faits à son image. Le problème, c'est que notre volonté et celle de Dieu ne sont pas toujours alignées. C'est là le défi. La volonté de Dieu, notre volonté, ne vont pas toujours de pair. Ésaïe 59. En fait, non, Allons d'abord à Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Parmi lesquels nous avions aussi notre conversation, notre conduite, dans le passé, dans les convoitises de notre chair, nous venons de lire à propos de la chair dans Jean. Accomplissant les désirs de la chair. Ce mot « désir » est le même mot que le mot que « volonté ». Donc, accomplir la volonté de la chair est la volonté de notre esprit ou de notre pensée. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Le péché, notre chair, c'est ce qui conduit à ce fossé entre notre volonté et la volonté de Dieu. Ésaïe 59. Verset à mémoriser. Marquez-le dans vos Bibles. Il est marqué dans la mienne. Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. Vos péchés ont fait que son visage s'est détourné de vous et qu'il ne vous écoute plus. Mes frères, notre objectif au cours des 7 prochains jours, c'est 7 prochains jours de fait des pains sans levain, et de faire tout notre possible pour trouver comment aligner notre volonté sur celle de Dieu. C'est le but de ces 7 prochains jours. C'est le but de cette saison. Comment aligner ma volonté sur celle de Dieu? Il ne suffit pas de paraître chrétien. Il ne suffit pas d'avoir l'air chrétien en surface. Allons à Matthieu 7. Matthieu 7. Mettre une robe, mettre une cravate, porter une Bible, sourire, je vais bien. Merci. Comment allez-vous? Ce n'est pas suffisant. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Oh, cela semble plutôt bien, Seigneur, Seigneur. Non. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui entrera dans le royaume des cieux. Cela va au-delà des apparences. Cela va au-delà de la surface. C'est bien d'être aux offices du sabbat, bien sûr, c'est bien d'être ici aujourd'hui, et ceux qui écoutent ce message sont là où vous êtes parmi les frères, mais nous devons faire tout ce que Dieu attend de nous, tout ce qu'il transmet quand il parle de sa volonté, les choses qu'il veut qu'on fasse. Notre volonté ne correspond pas toujours à la volonté de Dieu pour de nombreuses raisons. Peut-être n'avons-nous pas suffisamment étudié les Écritures pour savoir quelle est la volonté de Dieu sur un sujet. Peut-être que nous ne savons tout simplement pas. Vous me dites que c'est dans le livre, mais je ne le connais pas. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai oublié. Eh bien, ne pas connaître la volonté de Dieu rend difficile de la suivre et de la garder si vous ne la connaissez pas. Cela pourrait faire partie du défi. Il se peut que nous nous fions à nos émotions, à nos sentiments, que nous nous laissions emporter. Mes sentiments sont blessés. Je suis frustré. Je ne suis pas d'accord avec cela. Est-ce une raison pour être en dehors de la volonté de Dieu? Nous pouvons céder à la pression du monde. Oui, nous savons ce qu'est la volonté de Dieu, mais dans cette situation, il est difficile de la suivre. C'est difficile de le faire. Il rit. Il pointe du doigt. Ils ne veulent pas être mes amis. Ils ne veulent plus être avec moi. Je suis ridiculisé. Cela peut rendre difficile l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parfois, nous ne faisons pas la volonté de Dieu parce que nous oublions la situation dans son ensemble. Nous oublions la situation dans son ensemble. Nous devenons myopes. Nous commençons à nous concentrer sur ce qui est juste devant nos yeux au lieu de regarder le vaste monde, le vaste avenir qui est devant nous. Nous commençons simplement à penser à court terme. Nous ne pensons pas à demain ou à la semaine prochaine ou au mois prochain ou à l'année prochaine. Cela pourrait être, Nous pouvons lutter pour suivre la volonté de Dieu par ennui. Je ne veux tout simplement plus le faire, ou comme je l'ai mentionné, la frustration ou la FOMO, la peur de passer à côté. Quand je suis la volonté de Dieu, je passe à côté de toutes ces choses amusantes que je vois se produire, toutes ces choses que je vois faire aux autres. Cela pourrait être une lutte pour les jeunes et les moins jeunes. Vous pensez que les jeunes ne le font pas, nous, les plus âgés, nous devons aussi passer par là. Nous devons aussi passer par là, par cette lutte, ce défi. Lorsque nous sommes confrontés à l'opposition ou à la persécution de la part de notre employeur, de nos familles, de nos anciens amis, les uns des autres, ce sont autant de choses qui peuvent nous empêcher de suivre la volonté de Dieu. Oui, nous le savons. Peut-être l'avons-nous déjà fait, mais cette fois, j'ai du mal. J'ai du mal. Parfois, c'est juste de l'entêtement pur et simple. Je suis adulte. Je veux faire ce que je veux faire, et personne ne va m'arrêter. Aucun de vous n'a jamais fait cela, n'est-ce pas? Mes frères, ne prétendez pas que vous n'avez jamais été là. Vous ne le dites peut-être pas en hochant la tête et en adoptant une telle attitude. Vous ne le dites peut-être pas comme cela, mais nous sommes tous passés par là. Vous savez quoi? Je vais le faire. Personne ne regarde. Il n'y a personne autour. Qui s'en soucie ou tout le monde le fait? Même les autres frères le font. Je sais que c'est mal, mais tout le monde le fait. Mes frères, personnellement, il y a des moments où, vous savez quoi? Je veux juste faire. Juste moi, je suis honnête. Je veux juste faire ce que je veux faire. Ça arrive. Ça arrive. Maintenant, quand cela arrive, j'ai le choix. J'ai le choix. Je peux succomber. Je peux y succomber. Ça peut arriver juste dans une conversation. Je pourrais être seul. Je pourrais être en groupe. Cela peut arriver à tout moment. C'est souvent quand c'est le plus difficile aussi, quand on ne s'y attend pas. Et vous savez quoi? Je veux juste faire ce que je veux faire. J'ai un choix à faire. J'ai le choix. Je peux simplement être faible et succomber, ou je peux ralentir et réfléchir aux conséquences. Quelles sont les conséquences si je choisis simplement de faire ce que je veux? Oui, je serai peut-être plus mature dans tous les domaines, mais si je décide simplement de faire ce que je veux, à quoi cela m'amènera-t-il? Quelles en seront les conséquences? Que se passera-t-il plus tard si je me dis, oh, à quoi je pensais? Comment ai-je pu me permettre de faire cela? Si je suis intelligent, je vais ralentir, me calmer, faire la volonté de Dieu. Quand je ne le fais pas, ce n'est pas si. Quand je ne ralentis pas et que je ne réfléchis pas aux conséquences, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je suis en dehors de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes tous passés par là. Nous avons tous lutté contre l'obstination. L'obstination n'est pas propre à l'un d'entre nous. De nombreux personnages bibliques ont lutté contre leur propre volonté. Pensez à Jonas. Dieu lui a dit, « Va à Ninive. Prêche à ces gens. » Jonas a répondu, « Non, je vais faire autre chose. » Et voilà qu'il se retrouve dans l'estomac d'un poisson. Il est probablement en train de se dire, « Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais dû. Je ne pense pas avoir bien réfléchi. » Pensez à Moïse. Dieu dit, « Moïse, je veux que tu partes et que tu délivres mes enfants d'Égypte. » Moïse commence à trouver toutes sortes d'excuses, « Je ne peux pas faire cela. Je ne suis pas un bon orateur. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela. Dieu s'est mis en colère contre lui et il disait cela à Dieu, comme si ce n'était pas à travers une tierce personne. Il disait cela à Dieu. L'obstination est dangereuse. Pensez à Paul, à Saül à l'époque. Il persécutait, assassinait des chrétiens, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le jeune homme riche, un homme bon, au bon cœur, observait tous les commandements, mais il n'a pas tout vendu. C'était la volonté de Dieu. C'était la volonté du Christ pour lui dans cette affaire, et il a échoué. Il est parti triste parce qu'il avait beaucoup de biens. C'est l'exemple de quelqu'un qui, pour l'essentiel, faisait la volonté de Dieu, mais qui, dans ce cas précis, n'y est pas parvenu. Il est parti, triste. Il n'a pas pu suivre Christ. Pierre a renié Christ. Pierre l'audacieux, vous savez, celui qui se démarquait toujours, toujours prêt à partir, prêt à se battre. Quoi que vous disiez, je le ferai. Il a renié Christ trois fois après qu'on lui ait dit qu'il allait le renier trois fois. Nous avons tous lutté contre notre propre volonté. Nous avons tous agi en dehors de la volonté de Dieu. Allez au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Je le dis en partie pour nous déculpabiliser. Eh bien, si les grands personnages de la Bible peuvent souffrir de leur propre volonté, je vais bien. En partie pour nous déculpabiliser, mais pas complètement. Pas complètement. Romains 7, verset 14. Romains 7, 14. C'est Paul qui parle. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, je suis charnel. Vendu au péché, en esclavage au péché. Pensez à cette période de l'année où nous avons été délivrés du péché. C'est un homme, Paul, qui a été délivré du péché. Il a encore lutté. Il a encore traversé ses épreuves. Car ce que je fais, je ne le permets pas. Car ce que je fais, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Nous avons tous été dans une situation où nous faisons cette chose que nous détestons faire. Nous savons que c'est une mauvaise chose à faire. Ce que je hais, pourtant c'est ce que je me surprends à faire. On pouvait juste ressentir la lutte dans ces mots. Ils ont été écrits là pour une raison. Cet homme ouvre son cœur. Il s'ouvre. C'est l'un des apôtres de Dieu. C'est un dirigeant de l'Église de Dieu. Il partage cela avec nous pour nous encourager à comprendre, vous savez quoi? Si Paul est passé par là, je suis passé par là. Notre volonté, frère, est très puissante. Notre volonté est très puissante, extrêmement puissante. Nous devons la contrôler. Nous devons contrôler notre volonté. Est-ce possible? Est-il possible de contrôler notre volonté? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. L'une des principales raisons pour lesquelles Christ a été envoyé sur terre était de montrer qu'il est possible d'aligner notre volonté sur celle de Dieu. Allons au chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Chapitre 6 de l'Évangile de Jean. D'accord. L'une des raisons pour lesquelles Christ est venu sur terre était de montrer qu'il est possible d'aligner notre volonté sur celle de Dieu. Je veux dire, je pensais qu'il était venu pour mourir pour les péchés et je pensais qu'il était venu pour accomplir la prophétie, et vous me dites que l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu nous a envoyés ici était de montrer que nous pouvons aligner notre volonté sur la volonté de Dieu. Jean chapitre 6 verset 38. Jean 6, 38, c'est Christ qui parle, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous voyons donc que Christ a été envoyé du ciel sur terre. N'oublions pas que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a donc été envoyé du ciel sur terre pour aligner sa volonté sur celle de Dieu. Pour nous montrer que c'est possible. Pour nous montrer comment faire. Christ, cet être divin, a contrôlé sa volonté pour l'aligner sur celle de Dieu. Vous vous dites, d'accord, attendez une minute. Ne sont-ils pas tous les deux Dieu et ne sont-ils pas tous les deux des êtres divins? Mais apparemment, Christ avait sa propre volonté, distincte de celle du Père. N'êtes-vous pas d'accord? Mais son but, son objectif, était d'aligner sa volonté sur celle du Père. Christ n'était pas un automate. Il avait sa propre volonté. Il avait ses propres désirs, mais son but était de les aligner et de s'assurer qu'ils soient en accord avec la volonté du Père. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, verset 7. Hébreux, chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens, car il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Donc, dans les Écritures, il est écrit de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tout ce que nous lisons, frères, dans ce livre, tout ce que nous lisons sur Jésus-Christ, est une démonstration ou une manifestation de la volonté de Dieu. C'est dans le rouleau du livre. Ainsi, lorsque nous lisons les pensées, les actions, les désirs, les choses de Christ, ces choses sont en accord avec la volonté de Dieu, avec la volonté du Père. Elles sont écrites là pour notre exemple. Elles sont écrites là pour nous encourager et pour que nous les copions et les partagions. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, Jésus-Christ a beaucoup parlé de la volonté de Dieu. Jean, chapitre 4, verset 34. Jean, chapitre 4, verset 34. C'est l'un de mes versets préférés. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est votre verset préféré. Ça a l'air drôle. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est une façon particulière de le dire. « Ma chère, je sais ce que c'est. » C'est de la nourriture, mais Christ a vécu pour faire la volonté de Dieu. C'était comme si c'était de la chair pour lui. C'était de la nourriture pour lui. C'est comme cela qu'il a survécu. Nous avons tous survécu grâce à la nourriture, à un repas, à la viande. Eh bien, Christ, oui, il mangeait de la nourriture. Il mangeait comme nous le faisons en tant qu'êtres humains, mais il dit qu'il a survécu. Il a obtenu sa nourriture. Il a obtenu son énergie, sa force en faisant la volonté de Dieu. C'est une façon étonnante de le dire. Voyons-nous la volonté de Dieu de cette façon? La mangeons-nous? Mangeons-nous la volonté de Dieu? La considérons-nous comme notre nourriture? Qu'est-ce qui nous donne la force et l'énergie de continuer et d'aller de l'avant? Nous réveillons-nous chaque jour avec une soif de la volonté de Dieu? J'essaie encore d'y arriver. J'essaie encore d'y arriver, mais mes frères, nous devrions nous réveiller chaque jour avec une soif de la volonté de Dieu, en la mangeant et en nous en nourrissant. Je ne prétends pas que c'est facile. Comme je l'ai dit, j'essaie d'y arriver, mais je le lisse quand même. J'essaie d'y arriver. Ce n'est pas facile. Luc chapitre 22. Ce n'est pas facile. Faire la volonté de Dieu n'était même pas facile pour Christ tout le temps. Oh, vraiment. Non, lisons Luc chapitre 22. Faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Luc chapitre 22, verset 42. C'est Christ qui parle au Père. Il dit, « Père, si tu le veux, si c'est ta volonté, éloigne de moi cette coupe, néanmoins, donc d'accord, Si c'est ta volonté, Père, fais cette seule chose, mais néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Continuons à lire. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Christ était en proie à une lutte. Il était en proie à une lutte pour faire la volonté de Dieu. Il reconnaît la lutte. Dieu a envoyé un ange pour l'aider. C'est dire à quel point c'était difficile. Frères et sœurs, lorsque nous luttons pour faire la volonté de Dieu, Dieu ne nous enverra-t-il pas de l'aide? Ne nous enverra-t-il pas un ange pour nous fortifier? Demandons-nous cette force pour accomplir la volonté de Dieu? Christ l'a demandé. Jésus-Christ l'a demandé. Verset 44. Et étant en agonie, il est en agonie pour tenter d'aligner sa volonté sur celle de Dieu, il priait avec plus d'ardeur. Regardez ce qu'il traverse. Lisez ce qu'il traverse pour aligner sa volonté sur celle de Dieu. Et la sueur était comme des grumeaux de sang coulant sur le sol. Quelle description d'un homme, d'un être divin, faisant tout ce qui est en son pouvoir et ce n'est même pas suffisant. Dieu a dû envoyer un ange. Il a dû endurer l'agonie. Il a dû transpirer de grosses gouttes de sang tombant sur le sol afin de conformer sa volonté à celle de Dieu. Vous vous dites peut-être, d'accord, eh bien, c'est Christ qui subit la mort. Nous avons tous nos limites. Nous avons tous nos niveaux. Nous avons tous cette chose qui nous conduira à l'agonie. Bien sûr, aucun de nous ne pourrait s'y conformer, mais c'était le cas du Christ. Il était très capable. Il pouvait faire beaucoup de choses, mais même lui avait une limite. Mes frères, nous avons tous nos limites. Les choses qui nous pousseront, si nous le permettons, nous mettrons à genoux dans une prière fervente et une demande d'aide à Dieu. Les jours des pains sans levain sont symboliques de la manière dont nous devons aligner notre volonté sur celle de Dieu. À bien des égards, c'est de cela qu'il s'agit en ces jours. Sept jours. Comment faire ? Premier épître de Pierre, chapitre 5. Sept jours. Cela commence ici. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Nous en avons entendu parler tout au long de la journée. Humiliez-vous, Dieu ne peut pas le faire. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Donc, pour aligner notre volonté sur celle de Dieu, nous devons nous humilier. Le pain sans levain est plat. Il n'est pas gonflé. Il ne contient pas de levain. Il ne contient pas cet air gonflé. C'est un symbole d'orgueil. Nous ne devrions pas être gonflés d'orgueil. Lorsque nous sommes gonflés d'orgueil, c'est généralement le moment où notre volonté nous échappe et n'est pas alignée sur la volonté de Dieu. Deutéronome, chapitre 16. Le pain sans levain est plat. Nous ne le mangeons généralement pas toute l'année. Nous le mangeons à certaines périodes de l'année. Dieu a choisi le pain sans levain pour une raison. Deutéronome chapitre 16, verset 8. Pendant six jours, vous mangerez des pains sans levain, et le septième jour, vous mangerez des pains sans levain, vous devrez aussi les manger, ce sera une assemblée solennelle pour le Seigneur, votre Dieu. Vous ne devrez pas travailler. Ainsi, au cours des sept prochains jours, mes frères, nous devrons manger des pains sans levain. C'est pourquoi nous en avons fait autant, des sacs et des sacs et des sacs et des sacs et des sacs de pains sans levain. C'est parce que nous sommes censés le manger au cours des sept prochains jours. C'est un rappel physique, viscéral que nous devons être plats, que nous ne devons pas être gonflés. Maintenant, après les jours de pain sans levain, apportez le pain au levain gonflé, mais pas pendant les jours de pain sans levain. Nous devons le manger tous les jours. Tous les jours. Nous devons nous abaisser pour marcher avec Dieu. C'est dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8. Nous abaisser pour marcher avec Dieu. Nous en avons bien sûr entendu parler dans un message précédent. Nous avons donc commencé à réfléchir à la manière d'aligner notre volonté sur celle de Dieu. Continuons. Une autre façon d'aligner notre volonté sur celle de Dieu est de la rechercher. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Jean chapitre 5, verset 30, Christ dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. » Je pourrais passer beaucoup de temps là-dessus. Christ dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, donc nous n'avons aucune chance. Je continue. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mes frères, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Nous devons la chercher. Elle n'est pas toujours évidente, elle n'est pas toujours apparente, elle ne nous saute pas toujours au visage pour nous la montrer. Parfois, nous devons nous gratter et nous débattre. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Nous devons la chercher, la trouver. Quelle est la volonté de Dieu? Nous devons être prêts à le faire. L'une des choses qui peuvent être très déroutantes, c'est lorsque vous devez prendre de grandes décisions et que ces grandes décisions se présentent et que vous ne pouvez pas simplement vous tourner vers un verset en soi et déterminer, d'accord, quelle est la volonté de Dieu? En préparation de ce message, je parlais à l'un des ministres et il a soulevé un excellent point. Son argument était que lorsque vous vous demandez quelle est la volonté de Dieu, vous devez prendre en compte tous les facteurs d'une décision donnée. Pas seulement ceux que vous voulez prendre en compte ou ceux qui vous viennent immédiatement à l'esprit. L'un des exemples qu'il a donné était la recherche d'un emploi. Bon, vous êtes sans emploi depuis plusieurs mois et vous voulez travailler. Dieu a dit, si un homme ne travaille pas, il ne mange pas. Je veux travailler. Et enfin, vous recevez un appel. Enfin, vous avez l'opportunité de travailler. C'est ce que vous voulez faire. Cela correspond à votre CV. Cela correspond à votre expérience. Votre première impression est merveilleuse, c'est génial. Le salaire est bon. C'est clairement la volonté de Dieu. Tout est incroyable. Vous travaillez dans un environnement indépendant. Vous avez de l'autonomie. Vous avez de la liberté. Vous devez travailler le jour du sabbat. Vous devez. Oh, attendez une minute. Je dois travailler le jour du sabbat. Quelle est la volonté de Dieu à ce sujet? Tant de fois, je m'amuse avec cela et cela peut sembler évident, mais ce n'est pas toujours aussi évident. Mais son point de vue était, et j'étais d'accord avec lui. J'ai dit, vous savez quoi? Je dois partager cela avec mes frères et c'est vrai. Parfois, nous pouvons être tellement pris et nous nous demandons, bon, quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire? Et nous pouvons examiner tous les autres facteurs. Dieu veut que je travaille. C'est un bon salaire. Je peux faire le travail. Je peux payer la dîme. Je peux faire tout ce que j'ai à faire. C'est un bon environnement. C'est indépendant. C'est ce que je veux faire. C'est ce que Dieu, les talents que Dieu m'a donnés, vous savez, souvenez-vous que vous devez faire les talents parce que je veux des villes. Donc c'est tout ce que vous voulez, sauf que je dois travailler le jour du sabbat. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Nous devons examiner tous les facteurs, pas seulement ceux que nous voulons examiner, pas seulement ceux qui nous conviennent. Ce n'est pas parce que Dieu dit, si un homme ne travaille pas, Il ne mange pas, cela n'annule pas le fait que Dieu dise qu'on ne peut pas travailler le jour du sabbat. La loi de Dieu ne fonctionne pas de cette façon, ou elle s'annule en quelque sorte. Non. Non. C'est ce qu'on appelle la vapeur humaine, la volonté propre. C'est quelque chose que nous voulons évidemment éviter. Nous devons prendre en compte tous les facteurs. Allez au chapitre 3 des Proverbes. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Nous devons la chercher. Nous devons rechercher les choses qui, en effet, comme j'aime à le dire, se décident à elles-mêmes. Pour moi, cette décision de travailler le jour du sabbat, malgré toutes ces autres choses merveilleuses, est une décision qui se prend d'elle-même. Je n'ai pas à m'angoisser à ce sujet. Maintenant, je peux en dire beaucoup plus là-dessus. Si l'employeur dit de travailler le jour du sabbat, vous pouvez essayer de négocier pour vous en sortir. Vous pouvez dire, « Oh, je travaille le dimanche, je ferai ceci. Je viendrai à Noël, je ferai ceci, je ferai cela. » Mais si, en fin de compte, ils disent, « Vous devez travailler le jour du sabbat, alors ce travail n'est pas pour moi. » Proverbe chapitre 3. D'autres facteurs lorsque vous cherchez la volonté de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Nous devons donc d'abord faire confiance à Dieu. Nous cherchons sa volonté. Nous ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension. Nous ne nous concentrons pas uniquement sur les choses sur lesquelles nous voulons nous concentrer. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est donc un ensemble, tout doit s'aligner sur la volonté de Dieu, la parole de Dieu, et il dirigera votre passé. Ne vous faites pas une fausse idée de votre propre valeur, craignez le Seigneur et éloignez-vous du mal. C'est la formule. C'est le filtre à travers lequel nous prenons nos décisions, ces grandes décisions majeures. C'est ainsi que nous voyons la volonté de Dieu. Une autre façon d'aligner notre volonté sur celle de Dieu est de prier pour cela. Priez pour la volonté de Dieu. Premier épître de Jean, chapitre 5. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 14. Et nous avons auprès de lui cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous devons donc demander des choses, mes frères. Nous devons prier pour des choses selon la volonté de Dieu. Maintenant, j'ai un conseil à vous donner. J'ai un conseil. Ne priez pas pour des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Profond, non. Personne ne fait jamais cela, non. Ça arrive souvent. Ne priez pas pour des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant, vous ne savez peut-être pas ce qu'est la volonté de Dieu, et vous cherchez peut-être la volonté de Dieu dans une certaine affaire, mais ne priez pas pour des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant, ce n'est pas toujours évident comme le meurtre. D'accord. Parfois, cela peut être un peu plus trouble, un peu nuageux, mais vous connaissez vos faiblesses. Quelque chose qui... Bon. Vous avez des difficultés financières. Vous n'êtes pas la personne la plus solide financièrement, la plus disciplinée. Ne priez pas pour une carte de crédit non garantie avec une limite de 10 000 dollars, c'est la volonté de Dieu. Ne priez pas pour des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Si je lis bien, il ne l'entendra pas. Et c'est pour notre protection. C'est pour notre sécurité. Il est donc important de connaître la volonté de Dieu et de permettre à ce que vous savez de la volonté de Dieu de guider vos prières, d'en faire partie. Avant de, je vais le dire ainsi, prendre le temps de Dieu avec une certaine demande ou une certaine prière, assurons-nous que cela fait partie de sa volonté, sinon, nous ne faisons que parler. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Maintenant, une fois que nous connaissons la volonté de Dieu et que nous prions pour qu'elle s'accomplisse et qu'elle ne se réalise pas, nous abandonnons, n'est-ce pas? Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Nous abandonnons et passons à autre chose. Oh, eh bien, ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Un court verset. Priez sans cesse. Parfois, mes frères, notre Dieu veut juste savoir à quel point nous le voulons. Était-ce juste un caprice, une prière? Oh, vous savez, ce serait bien. Ou le voulons-nous vraiment de tout notre être? Le ressentons-nous? Nous prions pour un membre de notre famille. Nous prions pour qu'un conjoint non converti cesse de nous causer du chagrin. Et c'est juste une prière sincère. Parfois, nous devons simplement continuer à prier et à avancer, encore et encore. Que nos enfants nous écoutent pour une fois. Que notre patron cesse d'être si méchant avec nous. Que mon meilleur ami arrête de se mêler de mes affaires. Parfois, nous devons attendre que ces prières soient exaucées. Nous devons prier sans cesse, mais ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Nous prions pour la volonté de Dieu et nous continuons à prier pour la volonté de Dieu. Nous avons cherché la volonté de Dieu, nous avons prié pour elle, mais une autre façon d'aligner notre volonté sur celle de Dieu est de la connaître. Nous devons finalement savoir quelle est la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 1. J'ai parlé de connaître la volonté de Dieu pour diriger nos prières. Nous devons évidemment savoir ce que nous cherchons. Donc, si nous connaissons la volonté de Dieu, nous la saurons quand nous la trouverons. Colossiens, chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de désirer que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et compréhension spirituelle. La Bible est la volonté de Dieu. Nous ouvrons nos porte-documents, nos sacs à main, nos Bibles. Nous découvrons la volonté de Dieu. Mes frères, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, gardez le nez dans le livre. Gardez le nez devant l'écran de votre ordinateur sur Osode, Blue Letter Bible. Quelle que soit votre Bible, votre écriture, la façon de lire la Bible de votre choix. Gardez le nez devant. Familiarisez-vous avec. Étudiez-la. Méditez-la. Pensez-y. Et il ne s'agit pas seulement de réciter des versets. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir des versets, c'est bien, vous êtes un perroquet. Vous pouvez réciter et dire simplement ce que vous venez de lire. Super. Et je ne me moque pas de cela. C'est bien. Mais l'essentiel est de savoir comment l'appliquer. Je préfère savoir comment appliquer un verset, même si je ne le dis pas tout à fait avec le tu et le ainsi, mais si je sais comment l'appliquer, je suis dans une bien meilleure position. C'est la raison des articles et des sermons. D'accord, pourquoi écrivons-nous des articles? Pourquoi donnons-nous des sermons? Nous pourrions simplement rester ici et lire littéralement la Bible. D'accord, c'est la volonté de Dieu. Je vais juste la lire. Au commencement. Lisez-la en entier. Je serai là pendant un moment. Vous seriez tous endormis. Mais la raison d'être des articles et des sermons est de prendre la parole de Dieu et de nous montrer comment l'appliquer. Comment appliquer la volonté de Dieu à nos vies. Lorsque vous lisez cet article, le but, ce que l'auteur tente de transmettre avec l'aide de Dieu, c'est de montrer, bon, voici un verset. Voici comment il s'applique à vous. Un homme se lève et donne un petit sermon. Voici ce verset. Voici comment l'intégrer à votre quotidien, à votre réflexion ou à votre bien-être. Voici comment l'appliquer. Un sermon est composé de plusieurs versets qui font cela. C'est le but de ceci. C'est d'expliquer quelle est la volonté de Dieu. C'est à cela qu'ils servent. Si vous voulez aligner votre volonté sur celle de Dieu, vous devez le faire avec votre cœur. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Vous devez le faire avec votre cœur. Éphésiens chapitre 6. Verset 6. Éphésiens chapitre 6, verset 5. Nous allons plutôt commencer au verset 5. Serviteurs, nous sommes tous serviteurs de Dieu, soyez soumis à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, en toute simplicité de cœur, comme à Christ. Il s'agit donc d'être serviteurs des hommes. Nous le faisons dans nos emplois. Nous le faisons à différents titres. Verset 6, non pas en faisant les yeux doux pour plaire aux hommes, donc nous ne faisons pas seulement ce qu'il faut quand les gens regardent. Vous avez entendu cela quand vous étiez plus jeune et nous l'entendons maintenant. Vous ne le faites pas seulement quand les gens regardent, mais en tant que serviteur de Christ, en faisant la volonté de Dieu du fond du cœur. Du fond du cœur. Nous devons faire la volonté de Dieu avec tout notre cœur. Cela doit venir du fond du cœur. Vous vous souvenez de la viande? Ma viande, c'est de faire la volonté de Dieu. Cela vient du même endroit. Nous ne voulons pas seulement faire la volonté de Dieu pour bien paraître devant tout le monde. Vous savez, quand je suis avec mes frères, je fais la volonté de Dieu. Mais quand je suis seul, attention. Vous ne me reconnaîtriez même pas. Qui est-ce? Qui est ce type? Qui est cette fille? Je ne les reconnais pas. Nous ne voulons pas le faire pour les apparences. Ça s'estompe. Et, au fait, Dieu nous voit quand même. Même si les autres ne nous voient pas. Mais soyez vous-même. Maintenant, ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Si vous me voyiez devant mes enfants à la maison, ma femme, je pourrais être un peu différent. Vous pourriez dire, qui est ce type? Mais d'une manière générale, soyez vous-même. Vous savez, je pourrais me laisser aller. Je pourrais être un peu maladroit avec les gens qui me sont proches. J'espère que vous pouvez en dire autant. Vous n'êtes pas exactement pareil avec tout le monde tout le temps. Mais en tant que mode de vie, lorsqu'il s'agit de faire la volonté de Dieu, nous devrions être pareils. Nous devrions être pareils, peu importe devant qui nous sommes. Nous devons être vrais, être qui nous sommes. Luc, chapitre 12. Une autre façon d'aligner votre volonté sur celle de Dieu est de vous rappeler que vous serez responsable de ce que vous savez. Vous et moi serons responsables de ce que nous savons. Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, verset 47. C'est un grand principe. Luc 12, 47. Et le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, ne s'est pas préparé, et n'a pas agi selon sa volonté, donc il connaissait la volonté mais ne l'a pas suivie, sera battu de nombreux coups. Nous en savons beaucoup, frères. Nous avons beaucoup de connaissances. Nous avons beaucoup de connaissances. Pensez à toutes les choses que vous avez apprises juste avant de descendre dans les eaux baptismales. Toutes les choses que nous avons apprises sur le plan de Dieu, comment il travaille avec l'humanité, tous les détails, pourquoi les voies des hommes ne fonctionnent pas. Nous comprenons ce qu'est la foi. Je veux dire, toutes ces connaissances, tous ces livres que nous avons lus et étudiés, toutes ces connaissances. Et c'était avant que nous descendions dans les eaux baptismales. Cela ne fait même pas effleurer la surface de toutes les choses que nous avons apprises depuis. Toutes les connaissances qui nous ont été données depuis lors. Mes frères, nous en serons tenus responsables. Nous sommes responsables de ces connaissances. Dieu nous en tiendra responsables. Il n'a pas simplement jeté des perles au cochon. Ces connaissances étaient destinées à être assimilées et utilisées. Elles sont censées nous faire réfléchir. La menace d'une ceinture sur les fesses, cela a toujours été assez motivant pour moi en grandissant. Mais c'est intéressant ici, il est dit, battu de nombreuses fois. Si vous connaissez la volonté et ne la faites pas, vous serez battu de nombreuses fois. Les versets continuent en disant que si vous ne la connaissez pas, vous serez battu de quelques coups. Mais nous serons responsables de ce que nous savons. Et c'est une motivation formidable pour nous aider à aligner notre volonté sur celle de Dieu. C'est censé être une motivation. Elle est censée nous rappeler ce que nous faisons. Une autre façon d'aligner notre volonté sur celle de Dieu est de nous entourer de personnes qui font la volonté de Dieu. Soyez avec les frères. Soyez avec le peuple de Dieu. Qui se ressemble s'assemble. Les aigles ne volent pas avec les buses. Je n'ai jamais vu cela. Soyez avec des personnes qui partagent les mêmes idées, des personnes qui s'intéressent à la volonté de Dieu. Cela rend les choses beaucoup plus faciles. Marc, chapitre 3. Marc, chapitre 3. Verset 35. Marc, 3, 35. Commençons au verset 33. Marc, 3, 33. Et il leur répondit, « Qui est ma mère, ou mes frères ?» Et, jetant les yeux sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ceux qui font la volonté de Dieu font partie de notre famille. Nous ne le faisons peut-être pas parfaitement, mais nous cherchons la volonté de Dieu. Nous nous efforçons de faire la volonté de Dieu. Nous avons intérêt à connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous venons chaque semaine. C'est pourquoi nous observons les jours saints de Dieu. C'est pourquoi nous assistons à deux services pour faire quoi? En apprendre davantage sur la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes entourés de ceux qui veulent la volonté de Dieu, qui connaissent la volonté de Dieu, nous pouvons apprendre quelque chose. Nous cherchons des conseils. Nous avons le ministère. Ils connaissent la volonté de Dieu. Nous avons des piliers dans la congrégation. Ils connaissent la volonté de Dieu. Nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres. Vous savez, quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire? Que dois-je faire? Ou parfois, nous n'avons rien à dire. La personne partage simplement quelque chose de son passé. Et c'est comme si on se disait, « Oh là là, si jamais cela m'arrive, je vais faire exactement la même chose. » Vous connaissez maintenant la volonté de Dieu dans cette affaire. Parfois, un simple conseil objectif peut aider. Il ne vient même pas forcément d'un membre. Si vous avez l'oreille attentive, il arrive qu'une personne du monde vous dise quelque chose qui a fait ses preuves, qui est fondé sur des principes, et vous vous dites, vous savez quoi? C'est la volonté de Dieu en la matière. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Pour aligner notre volonté sur celle de Dieu, une autre façon est d'être patient. Soyez patient. Luc 21, 19. C'est difficile aussi. Nous devons être patients. Parfois, nous voulons juste ce que nous voulons quand nous le voulons. Luc 21. Verset classique, Luc 21, 19. Luc 21, 19. Dans votre patience, Vous possédez vos âmes, ou vos vies. Mes frères, parfois nous devons juste être patients. Nous devons être patients pour apprendre ou voir la volonté de Dieu sur une question se réaliser. Nous devons être patients. Parfois, la volonté de Dieu sur une question peut changer, et sa volonté dans une situation donnée a changé parce que nous avons changé. Maintenant, nous sommes dans une bien meilleure position pour pouvoir entrer dans sa volonté. Il peut s'agir d'une situation qui n'a jamais été prévue pour nous. Il peut s'agir de l'une ou l'autre. Vous pouvez vous dire, vous savez quoi? Je veux me marier. Je veux me marier. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'un côté, c'est la volonté de Dieu. Mais si vous n'êtes pas prêt pour le mariage, cela peut aussi s'appliquer aux femmes. Si vous n'êtes pas prête pour cela, ce n'est pas la volonté de Dieu à ce stade. Soyez patient. Cherchez à comprendre. Si quelque chose ne se passe pas, cherchez à savoir pourquoi. Creusez. Efforcez-vous de comprendre quel peut être le problème. Devenez, dans le cas du mariage, ce conjoint ou ce compagnon à qui Dieu serait à l'aise de donner un autre de ses enfants. Soyez patient. Dans certains cas, cependant, vous découvrirez peut-être que le mariage n'est pas pour vous, que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Cela pourrait être une pilule difficile à avaler, surtout si vous ne le savez pas au début. Mais soyez patient. Restez proche de Dieu. Ne vous laissez pas et ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain juste parce que, vous savez, vous n'êtes peut-être pas en train de suivre la volonté de Dieu dans une affaire. Vous savez quoi? Je vais tout laisser tomber alors. Eh bien, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et ce n'est pas seulement le royaume. Quand il est dit, ne vous lassez pas de bien faire, car à temps voulu, vous récolterez si vous ne vous découragez pas. Nous appliquons souvent cela au royaume et cela a une application, mais ce n'est pas la seule situation. Nous récoltons dans beaucoup de choses. Vous récoltez ce que vous semez. Ne vous lassez pas de bien faire. Continuez à faire ce qui est juste. Vous récolterez en temps voulu si vous n'abandonnez pas. Si vous arrêtez de faire ce qui est juste, vous ne récolterez pas en temps voulu. Ne vous lassez pas. N'abandonnez pas. Enfin, reconnaissez que pour aligner notre volonté sur celle de Dieu, nous avons besoin de son aide. Hébreux 13. Hébreux 13. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Hébreux 13. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts celui qui est devenu par le sang d'une alliance éternelle le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende parfait dans toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Nous voyons donc ici que c'est Dieu qui nous rend parfait afin que nous fassions sa volonté. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons par nous-mêmes. Travaillant en vous ce qui est agréable à ses yeux par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous trouvons notre chemin pour faire la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas en prendre le crédit. Nous ne pouvons pas en prendre tout le crédit. Nous pouvons en prendre une partie parce que nous y obéissons. Nous l'écoutons, mais nous ne pouvons pas en prendre la totalité. C'est Dieu qui agit à travers nous, qui nous montre le chemin, qui nous dit quoi faire. Tout d'abord, il a créé le chemin pour que nous puissions même marcher dessus, mais c'est lui qui nous conduit et nous guide sur ce chemin. Il le fait par l'intermédiaire de son esprit. Il nous donne les fruits de l'esprit à imiter et à copier. Ces fruits représentent sa volonté. Nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la foi, la douceur, la tempérance, Toutes ces choses fonctionnent ensemble. Elles manifestent toute la volonté de Dieu. Dieu le fait par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Le but ultime, frère, d'aligner notre volonté sur celle de Dieu se trouve dans Colossiens 4. Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens 4, 12. Epaphras, qui est l'un de vous, un serviteur de Christ, vous salue, travaillant toujours avec zèle pour vous dans les prières, afin que vous vous teniez parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu. C'est le but. C'est le but de l'Église de Dieu. La Mère, Dieu et le Père, l'Église de Dieu et la Mère, et en travaillant ensemble, le Père et la Mère, le but est que nous soyons parfaits et accomplis. Hébreux 10. Dieu a prévu quelque chose de remarquable pour nous. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de patience, nous voyons à nouveau ce mot patience, car vous avez besoin de patience pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir la promesse. Après avoir fait la volonté de Dieu, vous pourriez recevoir la promesse. Quelle est la promesse? Premier épître de Jean, chapitre 2. Nous n'obtenons donc pas la promesse avant d'avoir fait la volonté de Dieu. Nous l'obtenons après. Mais quelle est cette promesse? Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 17. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ainsi, la terre a disparu dans cette mise en place, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Telle est la promesse. Dieu ne peut mentir. Si nous faisons la volonté de Dieu, nous recevons la promesse. Cette promesse inclut la permanence éternelle. Il est intéressant de noter, alors que nous concluons, que ce dernier testament avec lequel nous avons commencé est une analogie si puissante. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent là-dedans que ce que l'on peut voir à première vue. C'est le document qui est laissé à un héritier et qui montre ce qui doit lui être laissé après le décès d'une personne. Dans Romains 8 verset 16, il est dit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Christ, co-héritiers de Christ. Mes frères, nous sommes tous héritiers. Le Père a écrit la Bible. La Bible est sa volonté. La Bible a deux testaments. Christ a envoyé son Fils mourir pour nous, et par sa mort, il nous a légué un héritage à tous. Une analogie très forte que nous devons comprendre. Frères et sœurs, nous sommes les héritiers de tout ce que Christ a s'il nous arrive quelque chose, si nous suivons sa volonté, si nous faisons ce qu'il veut que nous fassions. Pour avoir droit à cet héritage, frères, nous n'avons qu'une chose à faire, aligner notre volonté sur celle de Dieu.